RTI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur, ainsi qu'Antoine de Vulpilière, qui est associé du groupe EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Je vous donne le plaisir de recevoir Henri Reboulet, qui est président et directeur général de Vattenfall Énergie France. Bonjour Henri.
Bonjour Alain.
Alors vous êtes né en 1972, ingénieur télécom, et vous avez passé 20 ans dans les télécoms. Allez, deux souvenirs, un chez Bouygues et l'autre chez Télé2.
Chez Bouygues, je suis arrivé au lancement de Bouygues Télécom, donc c'était une première expérience assez intéressante au lancement du troisième opérateur mobile, 96. Et Télé2, première société suédoise, donc, puisque c'était un opérateur suédois dont la marque a disparu en France au fil des reventes des actifs. Chez Télé2, c'était ma première expérience de gestion d'une entreprise, parce que j'étais en charge pour la première fois de l'ensemble d'une entreprise.
Et là, pourquoi vous avez quitté le monde confortable des télécoms, où il y a des belles rémunérations, des grosses marges, pour arriver dans l'énergie ?
Eh bien, il y a certaines similitudes entre les télécoms et l'énergie, notamment sur la gestion du client, qu'il soit client entreprise ou résidentiel, dans l'acquisition et la gestion du client. Il y a une grosse différence, c'est la gestion du risque et la gestion du portefeuille avec l'achat de la matière première, donc l'énergie, qui s'achète sur des marchés à terme en général, avec des fluctuations qu'on peut connaître actuellement et qui génèrent des grosses volatilités.
Alors, Vattenfall, vous avez rejoint donc votre nirvana professionnel, c'était en 2016. Un mot sur ce groupe, il appartient à qui ? C'est quoi sa résonance économique ?
Alors, Vattenfall, c'est le principal énergéticien suédois. C'est un acteur qui est 100% public, qui est présent dans 7 pays. C'est 20 000 personnes pour 16 ou 17 milliards de chiffre d'affaires. On est présent sur l'ensemble des métiers de l'énergie, donc la production dans un certain nombre de pays, essentiellement sur du renouvelable, avec la gestion des réseaux de distribution et la fourniture. En France, nous ne sommes que fournisseurs pour l'instant.
Alors.
Mais on est candidat pour être présent dans la production d'énergie renouvelable.
Alors, le positionnement aujourd'hui, là, c'est compliqué votre vie, Henri, en ce moment, non ? Dans l'énergie ?
Depuis la fin de l'été dernier, l'augmentation des prix plus les différentes crises qu'on a pu vivre, et en particulier l'invasion de l'Ukraine, font qu'on a des effets très lourds et violents sur la hausse des prix du gaz et par rebond de l'électricité. Donc oui, c'est un peu stressant.
L'électricité est multipliée par combien si on raisonne en prix de revient vrai, hein, pas ce qu'on écoute à la radio ?
Alors, le prix de revient, quand on produit, il n'a pas forcément beaucoup évolué, mais en fait, les marchés européens sont constitués du prix de la dernière centrale appelée. Alors, c'est un peu compliqué, mais marginalement, ça veut dire quoi ? C'est que ce sont des centrales qui utilisent des énergies fossiles. Et donc, l'augmentation brutale du prix du gaz, pour toutes les raisons qu'on connaît, fait que le prix de l'électricité augmente aussi, indépendamment du coût de production potentiel.
Et alors, le gaz de schiste, on en parle beaucoup, là, il va venir peut-être pas forcément de Russie, peut-être de beaucoup plus loin. Mais nous, là, en France, comme en Pologne, on en a plein en dessous, là. En dessous des studios, là, on creuse, pof, on tombe dessus.
Alors, nous, on n'est pas chez Vattenfall sur les sujets d'extraction et en particulier pas du tout sur les sujets d'énergie fossile. On souhaite justement en sortir. Ça fait partie de nos projets d'entreprise que d'œuvrer pour un monde sans énergie fossile d'ici une génération. Donc, c'est pas forcément des sujets sur lesquels on va être très pertinent et qu'on va regarder.
Arnaud, alors d'abord, bravo Arnaud, vous êtes client particulier, hein, Vattenfall, c'est ça ?
Je ne suis pas le seul.
Est-ce que vous êtes un client heureux ?
Je suis un client très heureux parce que j'achète mon gaz à un prix bloqué pour 3 ans.
Eh ben bien. Là, c'est, alors, voilà, par contre, vous êtes moins heureux, vous, non, non.
Si, parce qu'on source l'électricité et le gaz, en général, en avance, quand on est avec des clients qui sont à des prix bloqués. Donc,
bon, ça me rassure.
Tout le monde est content.
Oui, vous êtes tranquille encore. C'est pour combien de temps vous êtes tranquille, Arnaud ? Vous avez signé le contrat quand ?
Il y a un an.
Très bien.
Encore 2 ans.
C'est bien. Vous avez des chances de traverser le pic de la crise. C'est très bien.
Pour l'instant, je suis très heureux. Alors, on va parler justement de réduction carbone. Vous êtes un acteur majeur sur la distribution d'énergie, en tout cas un majeur...
Fourniture.
Fourniture. Comment vous gérez cette approche et ces impératifs qui sont liés aux accords de Paris ?
Alors, Vattenfall a annoncé en septembre dernier qu'on augmentait nos ambitions justement en termes de trajectoire sur l'accord de Paris et on fait partie des acteurs qui ont annoncé être sur la trajectoire à 1,5 degré. On était précédemment à 2 degrés. On a pour ambition de sortir complètement des énergies fossiles à horizon 2030 et d'avoir une empreinte carbone positive à partir de 2040. Donc ça veut dire que ce sera au-delà de neutre en carbone.
Avec 10 ans d'avance.
C'est ça.
D'accord.
Donc on a l'ambition et la prétention de faire partie des coureurs de tête en termes de transition écologique.
Et un de vos leviers, c'est l'éolien en mer, si j'ai bien compris.
Oui.
Vous arrivez à convaincre les gens qui se posent des tas de questions.
Tous les pêcheurs suédois, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Non, mais je pense qu'il faut prendre conscience et s'il y a peut-être un effet positif, si tant est qu'il y en ait un, de la crise en Ukraine, c'est effectivement de faire comprendre que si on veut sortir des énergies fossiles, et en particulier de la dépendance de nos énergies fossiles, il va falloir toutes les technologies du renouvelable et également une certaine dose de nucléaire. Donc, et ça passera par les contraintes de pouvoir installer des éoliennes, de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques. Et il ne faut pas opposer, je dirais, les technologies. Elles sont toutes complémentaires. Et on en aura besoin pour gérer la transition écologique et sortir des énergies fossiles, qui sont le vrai sujet.
Antoine, vous êtes client ou pas ?
Alors, je ne suis pas encore client, mais...
3 ans bloqués, hein. Il faut y signer tout de suite, là, hein.
Mais j'y pense, je vais y penser. Et puis surtout, bah, vous avez un peu anticipé ma question, effectivement, qui portait sur les futurs énergétiques de la France en termes de mix. Et vous, en tant que professionnel, quelle est votre vision ? Alors, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais c'est des sujets qui sont très vite très clivants, alors qu'ils sont avant tout techniques en termes de, voilà, de volume à produire versus une consommation. Comment vous voyez les évolutions dans l'avenir ?
Alors, on a parlé d'éolien en mer. En fait, effectivement, Vattenfall est un des co-leaders du marché sur l'éolien offshore, donc en mer. Il y a un réservoir gigantesque en France pour l'éolien en mer. Aujourd'hui, on a 10 ans de retard sur tout le monde en Europe. On a une éolienne en mer en fonctionnement et encore, elle est en test. Il y en a plus de 6000 en Europe. Donc, là, suite, justement, encore une fois, à la crise et à l'impérieuse nécessité de sortir des énergies fossiles, le gouvernement a annoncé que la trajectoire, notamment de développement de l'éolien en mer, va être accélérée. Donc on salue évidemment cette annonce. Ça fait partie des leviers qu'on va pouvoir utiliser. Pourquoi ? Parce que l'éolien en mer, c'est la technologie dans le renouvelable qui permet d'être le plus efficace en termes de production et d'intermittence. Par rapport aux productions typiquement, par exemple, comme du nucléaire, qui permet de produire quasiment toute l'année.
Antoine ?
Une autre question, toujours liée à ces questions-là. Ça fait à peu près 15 ans que le marché de l'électricité, enfin de la fourniture d'électricité et de gaz, a été ouvert à la concurrence.
En France, hein ?
En France, ouais.
Un peu plus sur la partie professionnelle. On est depuis 20 ans dans la fourniture.
Ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Vous êtes arrivé quand sur ce marché-là et quels enseignements vous pouvez tirer finalement de l'évolution de ce marché, sa physionomie, qu'est-ce qui va changer, notamment avec les crises actuelles ?
On est arrivé en France en 2000, juste après l'ouverture du marché pour la clientèle grand compte, avec une activité donc de fourniture d'électricité et à partir de 2014, fourniture de gaz. Et depuis 2016, on s'est attaqué aux cibles intermédiaires TPE-PME et aux résidentiels depuis 2018. La concurrence est à un niveau d'intensité complètement différente en fonction des segments. Elle s'est bien installée sur la cible professionnelle, notamment sur les grands comptes. Elle est encore embryonnaire sur la partie résidentielle. Beaucoup de choses restent à faire pour qu'on puisse apporter vraiment de l'innovation pour le client final et notamment de l'innovation sur le pilotage des équipements à la maison en termes de consommation d'énergie.
Et quand vous allez voir une entreprise pour la séduire, hein, quels sont les plus de Vattenfall au regard d'autres opérateurs plus franco-français, on va dire, quoi.
Alors, il y a le positionnement Vattenfall, suédois, énergie verte, pour une vie sans énergie fossile d'ici une génération. Et après, il y a la relation client. Donc, on est quand même sur un métier où vous avez en face de vous un acheteur, un commercial, et il y a toujours un intuitu personnel qui peut se créer au-delà de la fourniture pure de la commodité.
Et l'addition, elle peut monter jusqu'à combien, là ? Parce qu'on voit les prix. Vous avez, c'était combien l'augmentation de l'énergie là, depuis un an ou deux ans ?
En fait, le prix du mégawatt-heure d'électricité est passé d'une cinquantaine d'euros au début 2021 à 200 euros sur le calendaire 2023.
C'est énorme,
et
oui.
En pic au spot, on est à plusieurs centaines d'euros. Ouais. En journalier.
Ça peut continuer, ça a encore fait tout peur, là.
Tout va dépendre des facteurs géopolitiques qui influent sur les livraisons de gaz, le prix du gaz, et aussi sur un problème qui est assez crucial en ce moment, qui est la disponibilité du parc nucléaire français, qui est, produit l'essentiel de notre électricité en France.
Henri, le plus beau métier du monde, c'est quoi ? C'est dirigeant d'entreprise, cuisinier ou propriétaire d'un club de pêche ?
Alors, un peu des trois. Je suis très content d'être dirigeant d'entreprise, mais j'ai un rêve de gosse qui, un jour, peut-être se fera plus tard d'avoir un restaurant. J'ai un vrai respect vis-à-vis des chefs.
Mais pour être chef ou pour le tenir ?
Les deux. Pourquoi pas ? Non, aussi. Chef, je ne sais pas. J'aurais peut-être pas la prétention, mais avoir un restaurant de copains.
Est-ce où que vous cuisinez bien déjà ?
J'aime bien cuisiner, oui.
Qu'est-ce que vous avez comme plat sympa en ce moment ?
J'aime bien le canard à l'orange.
Ah bien !
Voilà.
Ah oui, c'est pas le poisson au barbecue, là, c'est vraiment des. Oui.
Du filet de veau au mori, ce genre de choses.
Ouais. Et alors, avec tout ça, vous l'accompagnez avec quel type de vin ? Je sais que vous avez plutôt tendance bordelaise, hein, mais il n'y a pas
alors,
de monde. Hein.
Moi, je suis un pur admirateur du Bordeaux et en particulier des Saint-Julien, mais c'est vrai que je découvre aussi pas mal de choses, notamment des Côtes du Rhône blanc en ce moment.
Ouais, c'est bon ça aussi.
Je trouve ça assez sympa.
Quel était votre meilleur classement en tennis ?
Alors, classement pas très niveau. Élevé, mais niveau, on va dire 15-5.
15-5, mais c'est pas mal ça. Et à votre avis, le futur français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'il est déjà né aujourd'hui ?
C'est une très bonne question, Alain.
Vous en pensez quoi ?
Je ne sais pas. Ouais. Non, je.
Bah, prenez des risques. Vous ne travaillez pas dans l'énergie
non,
pour rien, quand même.
On a eu une très belle génération qui malheureusement n'a pas gagné le Grand Chelem.
Ouais.
Et là, il faut que les nouveaux arrivants progressent encore un peu.
Et pour terminer, vous soutenez des causes caritatives humanitaires, vous à titre personnel, Henri, ou alors votre entreprise ?
Alors, au niveau de l'entreprise, vous avez compris qu'on est très engagé dans le climat. C'est quand même le vrai sujet qui nous anime tous et qui nous permettra de laisser une planète vivable à nos enfants. Donc, on est effectivement à fond là-dedans.
Bon, très bien. Et pour terminer, une petite promo pour les auditeurs de ETI Radio. -20% sur le gaz pendant 3 ans ou pas ?
C'est compliqué en ce moment de vous annoncer ce genre de choses.
Merci beaucoup, Henri. Merci également vous, Arnaud
et
Antoine.
Vous.
Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et retrouvez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.